Bonjour à tous, ça va se mettre en route, voilà. Voilà, bonjour à tous. Alors je crois qu'on a eu hier après-midi, des ateliers très dynamiques qui ont permis des échanges et qui ont permis vraiment d'approfondir les thèmes que nous avions choisis. Alors nous allons ce matin, dans cette première partie, procéder, disons, à la restitution de ce qui s'est dit. Donc on va demander aux différents rapporteurs de prendre la parole et donc de nous faire un petit résumé en faisant jaillir les points saillants de ce qui s'est dit. Ensuite, on fera un petit temps de discussion avec la salle. Alors je donne la parole tout de suite à Abdoulaye pour l'atelier numéro 2, régulation du secteur privé de l'éducation.
Allô ? Voilà, merci. Je voudrais d'abord saluer toute la salle. Nous sommes le groupe 2, l'atelier 2. En principe, j'ai demandé à passer en premier lieu parce que nous avons été informés hier tardivement que Madame le ministre de la fonction publique, de la rationalisation des effectifs et du renouveau du service public souhaiterait, après avoir été nommée à la tête de ce département, rencontrer les organisations, les principales organisations syndicales du Sénégal. Mais je pouvais ne pas, il fallait venir aujourd'hui faire la présentation et aussitôt après retourner à Dakar pour la réunion. C'est pourquoi j'ai demandé à Luc, qui a bien voulu nous laisser passer d'abord en premier lieu. Voilà, mais on devait passer en deuxième lieu. Donc l'atelier, notre atelier, c'est l'atelier 2. Le thème de l'atelier, c'est la régulation du secteur privé de l'éducation. L'animatrice, c'est Madame Delphine Dorcy. Madame Mona Bernadel de Haïti a fait une communication sur l'exemple de son pays. La communication a été pour nous un prétexte d'approfondir la réflexion sur le thème. Ensuite, moi, Abdoulaye Ndoye, je suis le rapporteur. En résumé, la communication de Mona Bernadette de Haïti met l'accent d'abord sur un paradoxe, sur le fait qu'il y a un déficit d'enseignants, mais qu'il y a une prolifération d'écoles privées en Haïti. Et que 80% des écoles, vraiment, sont des écoles privées. Je m'excuse de la répétition. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a deux défis majeurs en Haïti, c'est l'accès et la qualité. Ensuite, elle nous a révélé également qu'en Haïti, il y a beaucoup de lois, le pays a signé beaucoup de conventions, mais dans la pratique, ce n'est pas ce qui se fait. Parce que la création d'une école publique ou privée, c'est libre. N'importe qui peut créer quand il veut, comme il veut, une école privée. L'essentiel, c'est de payer, de respecter la taxation qui est mise en place par le gouvernement. Et l'autre élément, c'est la place des écoles religieuses. Elle dit que vraiment, là, c'est le comble, qu'au niveau de ces écoles religieuses, c'est comme un marché, tout se vend. Blues, pinks, tout. Et ensuite, la catégorisation des écoles privées. Il y a plusieurs écoles privées en Haïti, du très bon, comme disait l'autre, au moins bon, jusqu'à etc. Donc c'est l'ensemble de ces idées qui nous ont permis d'approfondir la réflexion sur la régulation du secteur privé de l'éducation. Et concernant, il faut dire que nous avons travaillé dans une très bonne atmosphère et le débat a été un débat fécond. Les échanges ont été très fructueux et au terme des débats, sur le premier point concernant les défis et les enjeux, nous avons d'abord retenu l'application de la loi par les gouvernants. Le premier défi, il faut que les lois, les textes qui sont élaborés soient appliqués. Ça, nous avons dit que c'est le premier élément. Deuxième élément comme défi et enjeu, on a dit également l'absence de textes pour le fonctionnement et l'ouverture des écoles privées. C'est vrai que pour le Sénégal, il y a des textes, il y a tout, Mais dans beaucoup de pays, il y a une absence de textes et de lois pour le fonctionnement des écoles privées. La question de la régulation également du financement a été abordée. On a donné l'exemple du Canada où l'État finance à hauteur de 60% les écoles privées. Alors maintenant, certains demandent une diminution de ce financement. Au Sénégal, l'État met à peu près 1,2 milliard pour le financement des écoles privées. On a dit donc qu'il faut réguler ce financement, il faut même mettre des conditions, des critères. L'autre problème, c'est la non-implication comme défi des parents, des syndicats dans le contrôle des écoles privées. Il faut aujourd'hui un engagement des associations de parents d'élèves pour mieux contrôler les syndicats. Nous avons également montré la logique du marché qui est un défi. Parce qu'on a dit aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de globalisation, de mondialisation avec la logique du marché. Et donc, il faut également que le combat ne soit pas seulement un combat au niveau des États et des gouvernants, mais que ce soit un combat au niveau international, comme l'a fait le réseau francophone. Nous avons également comme défi la lourdeur bureaucratique. Ne facilite pas l'obtention de certains documents et la connaissance des textes qui régissent le fonctionnement des écoles privées. On a également évoqué la corruption et les conflits d'intérêts. C'est un élément essentiel. Dans beaucoup de pays, les membres du gouvernement ont des écoles privées. Hier, on a même donné l'exemple de madame la... je crois que c'est l'épouse du président du Gabon, extra, qui a pratiquement l'une des plus grandes écoles privées du Gabon. Et là, ça pose de réels problèmes. Même si on a la volonté de vouloir réguler, de vouloir faire des changements, on ne peut pas le faire. Donc rapidement, parce que nous avons 8 minutes, nous avons serré les idées essentielles. Maintenant, pour les solutions, le premier élément qui a été évoqué pour les solutions, c'est la volonté politique des États. Quelles que soient les mesures qui seront prises, s'il n'y a pas de volonté politique, on ne peut pas atteindre nos objectifs. Donc, premier élément, c'est la volonté politique. Mais il faut également que la législation du privé soit alignée, arrimée sur le public. Par exemple, aujourd'hui au Sénégal, on s'inspire, tout ce que fait le privé, on s'inspire du public. Deuxième élément, il faut également... L'autorisation de l'ouverture doit se faire avec la rationalisation de la carte scolaire. C'est-à-dire que ça règle la question de l'anarchie. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui maîtriser également la carte scolaire. Donc l'autorisation doit être soumise à la rationalisation de la carte scolaire. On a dit également, il faut, c'est un élément important, établir des comités de gestion et de veille. Dans la mesure où le capital s'adapte, il faut également que nous aussi, qu'on puisse avoir des comités de veille pour pouvoir contrôler, pour pouvoir veiller à ce que l'école ne soit pas une simple marchandise. Il reste une minute, d'accord. On a dit également qu'il faut une diminution parmi les solutions, diminution graduelle du financement du privé avec, en mettant en parallèle, le financement du public. Ensuite, la constitution de coalitions nationales fortes pour imposer un rapport de force au capital et aux États qui ne résistent pas. Se mobiliser également pour exiger l'application de la constitution. Parce que la gratuité des frais, une école de qualité, tout cela est consigné dans nos constitutions, mais malheureusement, ce n'est pas respecté. Également, dans une solution, il faut des programmes scolaires et manuels identiques, aussi bien dans le public que dans le privé. Soumettre le financement du privé à des conditions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas financer comme ça. Il faut des critères, comme au Burkina, où on vous finance, mais vous vous engagez à réduire les frais d'inscription et les frais de scolarité. Enfin, parce qu'il y a Luc qui me regarde... Jean-Hervé qui me regarde, n'est-ce pas? On a dit qu'on doit s'inspirer également de l'exemple du Rwanda. Parce que le Rwanda, aujourd'hui, c'est un modèle en Afrique où on est en train de fermer, les écoles privées ferment, parce que l'État a manifesté la volonté politique à investir dans le public, améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. C'est pourquoi, dès l'entame de nos propos, nous avons dit que la volonté politique est un intrant important pour faire face à la marchandisation et à la privatisation de l'éducation. Je vous remercie.
J'ai la parole à Carole. D'accord, tu prends l'autre micro. On posera des questions à la fin, donc vous... Ah oui, il doit partir, oui, d'accord, ok. Alors, vas-y. Attends, tu as une question ? Il y a une question pour cet atelier particulière ? Ok, alors on va prendre une question, et ensuite on passera la parole à Carole. Juste exceptionnellement parce que Abdoulaye est obligé de partir.
Bon, bonjour. Donc, je suis Luc Allaire, secrétaire général du Comité syndical francophone de l'éducation et de la formation. Dans cet atelier, on a parlé effectivement de la diminution du financement de l'école privée, du financement public des écoles privées, mais pas d'arriver à la fin du financement public des écoles privées. On veut qu'il y ait une diminution, mais que ça se dirige vers la fin du financement. Alors, donc, ça, c'était pas indiqué dans le rapport. Et lorsque vous avez dit qu'il fallait arrimer les subventions à des conditions, si on veut terminer qu'il n'y ait pas de financement public des écoles privées, il n'y a pas question qu'il y ait des conditions. On veut qu'il n'y en ait pas de financement public des écoles privées. Donc, c'est une nuance importante dans le rapport de l'atelier.
Merci. Alors, on va passer la parole à Carole.
Merci. Je vais rester debout, ça m'évitera d'avoir la clim dans le dos et je pourrais regarder en même temps. Donc, nous, c'était l'atelier tournant numéro 1 sur une éducation publique forte, rempart à la marchandisation, animée par Hélène Rama. Alors, on a commencé l'atelier par une introduction de Slim Gris de l'UGTT Tunisie qui a en fait posé une sorte de base pour notre réflexion sur qu'est-ce qu'une éducation publique forte, qu'il a décliné sous forme de 5 composantes. J'ai bien marqué le crédit puisque ça lui appartient, mais en tout cas il y a une adhésion de tous les groupes sur ces 5 composantes d'une éducation publique forte, de qualité. Donc ces 5 composantes, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, vraiment c'était la définition de base pour introduire l'atelier, mais donc elle passe par les apprenants, par le personnel, c'est-à-dire personnel enseignant, personnel de soutien, les contenus de qualité, les moyens, et notamment les moyens mis par l'État, les infrastructures et un équipement de qualité. Ensuite, on s'est posé comme problématique comment renforcer, voire même comment réhabiliter l'école publique, puisque le titre de notre atelier, c'était une éducation publique forte. Donc je ne vais pas relever tous les défis et enjeux qui, je pense, sont revenus plus ou moins, c'est plus ou moins les mêmes dans tous les ateliers. Je garderai ça pour la restitution papier, mais en tout cas, je vais plus me focaliser sur les réponses et les solutions qui ont émergé de cet atelier. Donc on a eu plusieurs axes qui ont été complémentaires, donc il a fallu forcément trier pour vous faire cette présentation, mais tout se répond et tout est lié. Donc axes très importants, c'était l'importance du financement domestique de l'éducation publique et comment essayer de libérer des fonds pour soutenir l'éducation publique. Il y a eu plusieurs propositions qui ont été amenées par les participants, comme la lutte contre l'évasion fiscale, comme la lutte contre la corruption, le civisme fiscal, que les entreprises soient dans des démarches de RSE. Il y a eu pas mal d'exemples qui ont été donnés par les différents participants aux ateliers. Donc je me suis permis de modifier le hashtag « Ne vendez pas l'éducation » par « Rendez l'argent ». Ensuite, on s'est dit aussi qu'il ne fallait pas tout renvoyer à l'État. C'est vrai qu'on s'est un peu focalisé, éducation publique forte, on s'est un peu focalisé sur l'État. Alors bien sûr, c'est la responsabilité de l'État de garantir une éducation publique de qualité. Il y a l'importance de la redevabilité qui a été aussi répétée maintes fois. Cependant, on s'est dit aussi qu'il fallait rappeler la responsabilité de chacun des acteurs, et notamment des acteurs que nous sommes, société civile. On a parlé donc des syndicats, des enseignants, des ONG, des associations d'éducation populaire complémentaire de l'école, des familles et des parents. Il y a eu beaucoup de choses sur les parents et sur le fait de soutenir les associations de parents d'élèves. Donc je le souligne un peu plus en gras. L'importance de travailler avec les territoires et les interactions entre les échelles locales, territoriales, nationales. Et surtout, essayer de construire des alliances, des partenariats et des réponses collectives. Ensuite, aussi, il y a eu des réflexions sur la nécessité peut-être d'informer, voire même peut-être de former les enseignants, les parents, les communautés à la négociation, sociale, au dialogue social et sur leurs droits. Et là, j'ai mis un hashtag unité parce que le mot est revenu plein de fois. Il y a eu beaucoup de choses sur l'unité syndicale, sur le fait de devoir dépasser en fait un peu nos précarés pour pouvoir défendre la cause qui est la nôtre, une éducation publique gratuite de qualité. On a parlé aussi énormément dans cet atelier, même si ce n'était pas l'atelier sur les enseignants, on a parlé énormément des enseignants et en fait... je le fais en mode raccourci, mais des enseignants forts, vous le savez, produisent un effet vertueux d'une éducation de qualité et une éducation forte. On a parlé donc de la formation initiale et continue, des conditions de travail de qualité, de la valorisation, de la rémunération, de la motivation, mais aussi de la liberté pédagogique, de pouvoir encourager l'innovation dans l'éducation publique et l'expérimentation, de laisser le droit aux enseignants d'aborder des problématiques proches de leur environnement, par exemple, de nouer des liens avec les familles, de réhabiliter l'école publique comme un lieu de vie qui réunit les parents, les communautés, les enseignants. Et tout ça, ça crée du sens, et du sens, ça se transmet. Et les élèves ont envie d'apprendre, les enseignants sont motivés, les familles sont convaincues, etc. Donc, hashtag motivation. Ensuite, donc là, je finis, c'est la fin. On s'est dit qu'il fallait changer de paradigme. Changer de paradigme, changer de vision. Comment, en fait, on a tendance à toujours focaliser sur les effets néfastes de la privatisation. Et en fait, il faudrait effectivement valoriser les effets vertueux de l'éducation publique. Rendre l'éducation publique attractive. Hein. C'est un mot qui est ressorti, donc je l'ai gardé. Communiquer plus, montrer des éléments de réussite, faire remonter les indicateurs dont on a parlé hier, par exemple, sur la qualité, la qualification des enseignants. Faire des campagnes de sensibilisation auprès des familles, auprès des parents. Il y en a même qui ont dit pourquoi on n'aurait pas des stratégies de communication comme le privé. Voilà, point d'interrogation. Convaincre les enseignants que le public aussi a plus à leur apporter en termes de sécurité, de liberté syndicale, de droit, d'emploi. Sensibiliser aussi les familles, les enseignants, enfin le grand public en fait, à la notion de droit à l'éducation, au sens de la nation, du bien public. Et ça a été dit aussi, développer une adhésion à une sorte d'éducation publique nationale, bien dans son pays, bien dans son contexte, en interaction avec le marché du travail, et arrêter de faire du copier-coller des éducations des voisins ou des éducations importées. Donc, hashtag j'aime mon école publique. Ensuite, on a dans le changement de paradigme, une minute, dans le changement de paradigme, avoir aussi une exigence pour l'éducation publique, c'est-à-dire réguler aussi le système public. C'est-à-dire aussi peut-être regarder un peu plus, balayer un peu sous notre porte, quand on parle du privé, balayer un peu aussi au niveau du public. Avoir un niveau de qualification exigeant, le montrer, le dire. On a parlé de la déontologie aussi des enseignants. Et aussi montrer que le système public, il innove. Hein. Je pense qu'on a du mal à le valoriser, mais il y a plein d'expériences, il y a plein d'exemples à valoriser. Voilà, hashtag parce que l'école publique le vaut bien. Voilà, merci à vous.
Merci Carole. Donc on va passer tout de suite la parole à Léa, qui est rapporteure de l'atelier Inégalité, Ségrégation et Cohésion Sociale.
Merci. Donc cet atelier, il a été introduit par Gratien Mokonzi et animé par Sylvain Aubry. Donc Gratien Mokonzi a commencé par nous souligner l'importance de l'objectif de l'éducation qui doit notamment favoriser les cohésions sociales. Il a également pointé les différentes inégalités en matière d'éducation qui peuvent conduire à la discrimination sociale, au manque de cohésion sociale et donc avoir un impact au sein mais également en dehors de l'école. Il a souligné aussi l'importance de respecter et d'appliquer l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui met en évidence l'égalité pour lutter contre la ségrégation et la discrimination. Et ensuite, il a souligné notamment les différents types d'inégalités dans l'éducation. Donc, il peut y avoir des inégalités au niveau de la fréquentation, mais des inégalités au niveau de l'accès à l'éducation, des inégalités au niveau de l'offre, mais également de la demande. Et ensuite, il nous a donc donné des définitions de la cohésion sociale, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, nous, donc les questions importantes auxquelles on a essayé de répondre, c'était notamment quelles sont les formes d'inégalité en matière d'éducation, elle renforce la marchandisation et la privatisation de l'éducation, mais également quel est l'impact de ces inégalités sur la cohésion sociale et quelle stratégie pour supprimer ces inégalités, les réduire et pour que cela puisse avoir un impact sur la réduction des inégalités en général. Donc je vais me lever. Donc là, dans un premier temps, on a essayé d'identifier les liens entre la privatisation de l'éducation et les inégalités. Donc les principaux facteurs d'inégalité dans l'éducation privée, on a notamment la question du coût à l'éducation, avec les inégalités socio-économiques, la sélection à l'entrée qui se fait selon le niveau, le genre, le milieu socio-culturel, religieux, et qui peut entraîner donc une discrimination, des ségrégations et avoir un effet négatif sur la cohésion sociale. On a pris l'exemple notamment des écoles privées qui vont ne prendre que les bons élèves. Ensuite, on a souligné la répartition géographique des établissements privés qui sont souvent concentrés dans les grandes villes au détriment des villages reculés et qui vont aussi s'implanter dans les quartiers développés. Voilà. Ensuite, les écoles privées peuvent entraîner la baisse de la qualité des enseignants. On a vu notamment avec l'exemple des écoles à bas coût, qui vont généralement, pareil, s'implanter dans des quartiers plutôt défavorisés. Donc accentuer les inégalités. La question du curriculum dans les écoles privées qui ne respectent pas forcément les programmes officiels. Et aussi les inégalités au niveau du préscolaire qui sont renforcées parce qu'il n'y a pas de... La petite enfance, c'est que du privé. Il y a donc des contre-arguments qui ont été soulevés par les participants, disant que l'éducation privée, certaines formes d'éducation privée pouvaient essayer de lutter contre certaines inégalités, mais en tout cas pallier à certaines inégalités. Notamment le manque de ressources et d'équipement de certains établissements publics, avec, comme on l'a vu, certains établissements privés peuvent être mieux équipés en matière matériel informatique, mais aussi de facilité pour recevoir des personnes en situation de handicap. Voilà, les problèmes de fonctionnement qui touchent plus particulièrement le secteur public avec les grèves et le manque d'établissements publics dans les régions reculées, mais également l'accès à une éducation alternative pour certaines communautés religieuses ou ethniques.